Deutsche Welle. Droits et libertés.
Sitôt présenté, sitôt enterré, le plan pour les banlieues soumis par Jean-Louis Borloo à Emmanuel Macron en France a abouti à des propositions du président, certes, mais des propositions qui ont déçu dans les quartiers périphériques concernés, souvent défavorisés. Alors cette semaine, nous allons sur place pour voir un peu à quoi ça ressemble en vrai, la banlieue, quel est le ciment qui lie ou pas les différentes populations qui y vivent, et prêter l'oreille à des habitants ou si on demandait directement aux banlieusards ce qu'ils espèrent, eux. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. La banlieue, à Paris comme autour d'autres grandes villes de France, ce sont de grands ensembles d'immeubles, des tours, des barres de béton avec des centaines d'appartements, parfois des milliers d'habitants. Mais ce sont aussi des quartiers pavillonnaires, des jardins, des aires préservées qui rappellent l'avant-urbanisation à outrance des années 1960-70, quand ces lieux étaient encore appelés la zone, où restaient des petites villes et des petits villages où cohabitaient des maraîchers et des ouvriers. Maintenant, c'est le domaine des classes moyennes. Mais les banlieues sont aussi des quartiers où se concentrent les plus pauvres et par conséquent aussi les tensions sociales.
Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.
Durant la campagne électorale pour la présidentielle de 2017, le candidat Emmanuel Macron avait promis, comme d'autres avant lui, de favoriser l'émancipation des banlieues. Alors son plan était attendu et la semaine dernière, le désormais président Macron a annoncé son intention de changer de méthode, mais ses déclarations ont déçu. Le chef de l'État est resté très vague sur la façon dont il compte favoriser le travail des femmes, créer des places de crèche et des stages pour les collégiens, ou encore la Cour d'équité territoriale pour reprendre ses promesses. L'équipe réunie autour de Jean-Louis Borloo avait été chargée par l'Élysée d'élaborer un plan banlieue et elle l'avait pourtant mise en garde contre le risque de repli communautaire, voire d'apartheid social, pour reprendre cette fois une formule choc de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Étant donné l'ampleur des difficultés éducatives, sociales et économiques rencontrées dans les quartiers les plus pauvres, les mesures non chiffrées du président restent en deçà des besoins réels pour de nombreux éditorialistes. Pour ne citer que deux exemples, le quotidien catholique La Croix écrit qu'Emmanuel Macron a privilégié le verbe, tandis que Libération ironise sur un plan-plan dont l'objectif serait, je cite, « de ne pas faire quelque chose ». Plusieurs maires de communes de banlieue ont aussi fait part de leur déception. Les partis de gauche réclament de plus grands investissements, des moyens humains et une volonté politique plus forte pour répondre vraiment aux attentes de la population. À droite, Laurent Wauquiez critique une politique spectacle qui risque selon lui de provoquer une fracture avec des territoires totalement oubliés. Et à l'extrême droite, Marine Le Pen met en avant le danger que représente l'islamisme et plus généralement la concentration de personnes immigrées ou d'origine étrangère dans certaines banlieues. Une mixité que certains considèrent toutefois comme une chance, soit dit en passant.
Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clans d'eau. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où ça un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses renois qui font « Toi aussi là, qu'au café là, ma fille ?»
Le slammer Grand Corps Malade dont on vient d'entendre un morceau est originaire de Saint-Denis, une ville du 93 qui touche Paris et à qui il a dédié plusieurs chansons, plusieurs slams. Mais un peu plus loin de Paris, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale, dans le département de l'Essonne, se trouve la ville de Grigny. Avec ses un peu plus de 28 000 habitants, Grigny est une banlieue type. Foun Fofana a 7 enfants et de retour sur le marché du travail, elle espère pouvoir vivre un jour de ses talents de cuisinière.
J'espère être bien formée pour qu'on monte toutes les bases de la cuisine pour pouvoir faire vraiment la cuisine que j'ai envie de faire, comme disait ma collègue, que ce soit franco-africaine. Et peut-être créer aussi une entreprise familiale dans la cuisine, parce que dans la famille, on aime bien la cuisine.
Avant de pouvoir exploiter son héritage culinaire malien, Foune Fofana apprend les bases dans le centre éducatif de Grigny. Aujourd'hui, les femmes présentes peaufinent leur CV et elles le savent, leur principal handicap sur le marché du travail, c'est leur adresse.
Tout le monde est dans la même galère, quoi, parce que chercher un emploi, t'habites à Grigny, c'est dur. Quand les enfants ils cherchent des stages, oui, on prend des stagiaires, mais dès que tu dis où t'habites, à Grigny, finalement, non. Donc, oui.
Grigny est en bas de classement sur presque tous les tableaux indicateurs de développement. C'est la commune la plus pauvre de France, avec l'un des taux de chômage les plus élevés, tout comme les indices d'abandon de scolarité ou d'illettrisme. Philippe Griot est le maire communiste de la ville. Il est bien conscient des difficultés de ses administrés. Certains d'entre eux n'ont même pas accès aux soins considérés comme de base dans le reste du pays.
On parle de jeunesse, on parle de santé aussi. Il y a ici, dans ces territoires, des problèmes de santé impensables et inimaginables en France, qui est un pays où le système de santé était vanté. L'État français est en échec dans les politiques publiques qu'elle mène depuis des années. Nous avons le sentiment de ne pas être écoutés par les pouvoirs publics et que on se moque de nous et on nous donne des miettes pour manger un petit peu et on est extrêmement fatigué.
En octobre dernier, 150 maires français ont lancé l'appel de Grigny pour réclamer aux autorités une réponse à ce qu'ils considèrent comme une crise d'ampleur nationale.
Nous voulons la liberté, l'égalité et la fraternité qui sont les piliers de la société française. Or, aujourd'hui, à Grigny, c'est liberté, inégalité et fraternité.
C'est pour répondre à cet appel pressant des élus qu'Emmanuel Macron avait donc chargé Jean-Louis Borloo de proposer un plan banlieue afin de relancer la rénovation des quartiers les plus pauvres, des constructions en tout genre, une reconnexion interurbaine des transports en commun, des chantiers estimés à plusieurs milliards d'euros. Les espoirs soulevés étaient donc importants.
Tout est prêt pour réussir. Tout le monde attend le feu vert.
D'où la déception qui a suivi les déclarations du président le 22 mai, dont nous parlions tout à l'heure. Pourtant, dans les années 1970, les grands ensembles, les cités, ont été conçus par des urbanistes idéalistes pour héberger notamment les travailleurs immigrés en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Sauf que ces zones ont été délaissées pendant des décennies, les bâtiments sont alors tombés en décrépitude et certains quartiers sont devenus des plaques tournantes du crime et des trafics en tout genre. En 2005, certaines banlieues comme Grigny sont entrées en éruption dans tout le pays. Des émeutes ont eu lieu, des jeunes gens des cités ont crié leur ras-le-bol et leur défiance vis-à-vis de la société, brûlé des voitures, détruit des vitrines, affronté les forces de l'ordre. En 2015, le terroriste Hamedi Coulibaly, responsable de l'attaque de l'hypercacher, était natif de Grigny. Il a tué 4 otages après avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Mais Grigny, comme d'autres communes de la banlieue parisienne, est en train de changer. De nouveaux immeubles voient le jour, une nouvelle mosquée vient d'ouvrir ses portes. Il y a peu, un court-métrage a même été tourné dans la ville, co-réalisé par des habitants. La ville, qui veut donner une nouvelle image et demande pour cela le soutien d'athlètes et de jeunes artistes. Boubacar Sakanoko a aidé à mettre sur pied un festival de musique et une web radio.
Bienvenue dans la Néosphère, c'est l'émission Néomusique. Nouvelle semaine, nouveaux invités. Monsieur Black 10 est là pour son projet. On vous a ramené un petit comique. On va commencer par lui déjà.
Moi, je suis issu d'une ville qui, à la base, est très, très solidaire. C'est-à-dire, c'est une ville où il y a beaucoup de solidarité. Et je suis aussi issu d'une éducation collective, c'est-à-dire une éducation à laquelle tout le monde élevait tout le monde à une certaine époque à Grigny. Et on nous a inculqué aussi le fait de d'être généreux et d'aider les autres. Donc moi, mes parents ont beaucoup, et même aujourd'hui encore, mes parents, ma famille a beaucoup et aide beaucoup encore les gens.
Le maire prévoit un nouveau centre de santé. Il a déjà mis en place des programmes de formation et d'éducation. Laurence Richard dirige le centre de formation de Grigny, destiné à lutter contre le chômage.
On a environ 500 personnes qui passent chaque année dans le centre, hein, sur tous les formations dont je vous ai parlé. Et on a effectivement des taux de ce qu'on appelle des taux de sortie positive, c'est-à-dire des taux des gens qui rentrent ou en emploi derrière, en emploi durable, ou en formation, qui suivent leur parcours de formation, de plus de 70%. 70% en moyenne donc de taux de sortie positive, ce qui est un très bon taux de sortie si on considère le point de départ de ces publics.
De retour dans la salle de formation, Foun Fofana a un message pour le chef de l'État.
Je dirais à M. Macron qu'il ne doit pas s'intéresser aux riches, quoi. Qui fait quelque chose pour les jeunes, qui crée plus d'emplois, qui donne des subventions aussi aux associations, qui bouge, qui pense pas qu'aux riches.
Là où j'habite, c'est pas grand et pas bien luxueux, mais j'aime bien. C'est des apparts et au milieu, il y a une cour toute petite. Là où j'habite, les voisins sont jamais loin. Tous les jours, on se fait bonjour et dans son coin, chacun s'agite. C'est sympa là où j'habite.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Liza Bryant pour les sons. Écrivez-nous à français@dw.com pour réagir. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast sur dw.com/français. C'est tout en bas de la page d'accueil. Salut et à la semaine prochaine.
Presque toujours de bonne humeur. Le père a l'air de bosser dur et tard. Et le soir, ses enfants s'amusent dans la cour ou sur le trottoir. Ils ont des jeux de gamins et quand ils crient un peu trop fort, il y a la maman jamais très loin derrière. Elle leur fait signe de se taire là où j'habite. Juste là où j'habite.